Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Voilà, au sommaire de cette émission, donc nous allons commencer par recevoir une auteure qu'on aurait dû d'ailleurs recevoir depuis longtemps, parce que on aime beaucoup ce qu'elle fait, on aime beaucoup ce qu'elle écrit, et puis ça s'est jamais présenté. Donc nous avons le grand plaisir de recevoir Laurence Biberfall, non pas pour un roman, mais pour deux romans sortis en ce printemps. Et puis dans la deuxième partie d'émission, on va donc vous emmener en Espagne avec Carlos Salem, en Italie avec Mimmo Gangemi, et puis nous allons terminer en France, mais un petit peu loin.
En
Guadeloupe, aux Antilles françaises. Donc, comme je vous le disais, dans quelques secondes, j'espère, parce qu'elle habite un coin assez reculé des côtes, j'espère qu'on va pouvoir discuter avec Laurence Biberfall. Laurence qui vient de faire paraître, dont deux livres viennent d'être édités. Le premier s'appelle Sous la neige, nos pas. Laurence Biberfall, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous entendre, c'était pas gagné?
Oui, bon, ça devrait aller.
Ça semble marcher. Il fait beau chez vous sur la côte. Est-ce qu'on s'entend?
En fait, il y a de l'écho, mais c'est pas grave. Il y a du vent sur les côtes aujourd'hui.
Voilà. Donc, je disais qu'on était ravis de vous recevoir pour deux romans qui sont sortis récemment. Le premier à la collection Territory, une collection qu'on aime beaucoup, beaucoup, à la manufacture de livres, qui s'appelle Sous la neige, nos pas. Et le deuxième, qui s'appelle Écoute les cloches, aux éditions Au-delà du raisonnable. Et deux mots de présentation. Vous fûtes un stit il y a longtemps, puis à l'aube du 21e siècle, vous devint écrivain.
Oui.
Et si je dis ça, une partie de votre vie à Paris, et maintenant dans les causes, en pleine campagne, si je dis ça, c'est que ça a quand même un écho avec les deux romans dont on va parler maintenant.
Ah oui, évidemment. Oui, oui.
Voilà, donc deux romans très différents, mais il y a quand même des thèmes communs. Le premier, Sous la neige, nos pas, c'est ce qu'on appelle la France profonde, un plateau de Lozère, le plateau de la Margeride, et puis l'autre se passe à Paris, dans la capitale, Écoute les cloches. C'est pour ça que je voulais dire un petit peu les endroits où vous avez habité. Et est-ce que je me trompe si je dis que dans les deux cas, c'est un très grand et un très beau cri d'amour pour ceux qui sont pas vraiment dans les clous?
Ah oui, mais bien sûr. Alors ça, c'est vraiment récurrent dans ce que je fais.
Mais de manière à chaque fois très très différente, puisque ces livres ont des tons très 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 différents. Autre point commun, dans ces deux cas, mais c'est vrai aussi dans d'autres romans, c'est à chaque fois deux mondes qui se rencontrent, deux sphères qui ne doivent pas se rencontrer, et puis tout d'un coup, il y a une rencontre, mais avec vous, ça crée un peu le chaos quand même, hein.
Oui, oui, oui. Et puis dans le cas de Sous la neige, nos pas, c'est une espèce de cohabitation. On ne sait pas vraiment s'il y a réellement une rencontre. Enfin, les gens vivent ensemble. En fait, ils vivent dans un espace commun, dans un espace-temps commun, mais ils vivent pas du tout les mêmes choses, bien qu'ils vivent les mêmes événements. Et pour finir, personne ne saura vraiment ce qui est arrivé à l'autre, enfin aux autres. Ça reste assez étanche, en fait.
Ceci dit, l'étanchéité fait que, malgré tout, des ondes sont passées, surtout du côté, je pense, de cette jeune instite, d'Esther, hein,
oui.
Puisqu'elle s'en souvient à la fin de sa vie, le début du roman, on peut le dire. Hein, elle raconte à la fin de sa vie les deux ans qu'elle a vécu sur ce plateau de la Margeride. Elle a rejoint avec sa fille ce coin isolé pour être instite, hein, avec quelques enfants, pas beaucoup. Et puis, ce qui la surprend, entre autres, et ce qui la marque quand même, c'est la générosité des habitants, à commencer par Lucien. Vous dites à un moment donné, je resterai au seuil de ce mystère que certaines personnes, sans qu'on puisse expliquer pourquoi, sont imperméables à la facilité collective de la malveillance. Que de choses dites dans cette phrase?
Oui, oui, il y a certaines personnes, effectivement, échappent à ce principe un peu du bouc émissaire qui, finalement, sert de ciment à pratiquement tous les groupes dans tous les milieux. Et c'est vrai qu'il y a les groupes se cimentent en rejetant d'autres gens. Lucien, il est complètement imperméable à ça. Il n'est pas du tout... il se cimente avec personne, en fait, finalement. Il est très solitaire. Bien qu'il fasse partie de cette espèce de métabolisme social que constitue le village, qu'il en soit même, d'ailleurs, une pièce importante, mais il n'est pas dans... Enfin, comment dire, il s'agrège pas aux autres.
Il y en a peu, d'ailleurs, du village qui s'agrègent. Peut-être est-ce la géographie, peut-être est-ce le climat.
Oui, c'est des conditions extrêmement, extrêmement dures. Et donc, c'est des rapports sociaux vraiment différents, quoi. Où c'est pas les mêmes. Enfin, on n'a pas les mêmes impératifs, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Il y a une nécessité vraiment vitale à être solidaire, en fait. Mais solidaire, ça veut pas dire s'aimer.
Solidaire et solitaire.
Solitaire et en même temps solidaire.
Oui. Voilà, parce qu'il y a quand même. Il y a quand même une grande, grande solitude sur ce plateau de la Margeride.
Une immense solitude. Oui.
Alors, on parlait de l'autre monde qui s'affronte. C'est Esther, donc l'instit, va héberger à un moment donné une amie, Vanessa, et bah, elle trafique un peu. Et ça va amener sur ce plateau un monde, mais totalement différent. Aussi paumé, finalement, mais complètement différent. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des copains de Vanessa, enfin, Vanessa, ses copains, ce qui va arriver sur ce plateau de la Margeride?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est impliquée dans un trafic de cam, hein, tout simplement, qu'elle a déjà fait de la tôle à cause de ça. C'est quelqu'un qui est très fragile, très paumé, et qui va finalement emmener tous les ennuis, tous les... C'est plus que des ennuis, là, pour le coup, hein, toutes les catastrophes liées à ce trafic de cam. Sur la Margeride, où ça tombe, mais vraiment, alors, comme un comme un cheveu sur la soupe, mais où, en même temps, voilà, ça va pas du tout déclencher les choses qu'on pourrait attendre. En fait, les paysans, et particulièrement certains d'entre eux, vont avoir un réflexe de protection vis-à-vis d'Esther.
Finalement, ils ont leur code à eux.
Oui. Ils se posent pas les questions de la même façon. D'abord, ils sont pas dans cette question de l'égalité ou pas de l'égalité, quoi. Et ils n'ont pas le réflexe, par exemple, de se dire, faudrait quand même, appeler peut-être la police s'il y a ça qui se passe, etc.
Ils règlent leurs affaires eux-mêmes.
Ils règlent leurs affaires eux-mêmes, ça c'est clair. Ça fait vraiment partie de cette méfiance viscérale du monde paysan, en tout cas ancien, pour l'ordre.
Est-ce que une des raisons, enfin, on vous jugez pas, vous expliquez pas, vous aimez, vous parlez de la beauté intérieure, extérieure de ce bout de plateau, mais je lis un petit extrait sur la rudesse quand même de ce plateau. Il pronostiquait que l'hiver prochain serait dur, sans trop savoir pourquoi. Chaque année qui passait leur arrachait des fibres et des tissus, exténuait leur barcasse de viande. Il lui semblait que chaque hiver était plus long, plus teigneux que le précédent. Ça n'en finissait pas. À quoi bon ? Vivre comme ça, ça valait quand on était jeune et quand on avait encore la force des éléments qui vous secouaient comme une ivresse extrême. Mais vieillir ainsi seul, sur cette route glaciaire, finalement, c'est un petit peu comme dans certains romans de ce qu'on appelle le nature writing américain. Finalement, ils se sont minéralisés, ces gens.
Oui. Mais c'est lié au fait, au fait qu'à cause de l'exode rural, c'est des montagnes qui sont énormément désertifiées. Comme je le dis dans le bouquin, les femmes sont parties énormément. Elles n'ont pas voulu rester là parce que les conditions finalement étaient de plus en plus précaires du fait qu'il y avait de moins en moins de monde. Hein. Bon, ça date évidemment, déjà ça remonte à la Première Guerre mondiale qui a littéralement vidé toutes les vieilles montagnes françaises. Mais après, tous les fins. Comment ?
Ah non, je n'ai rien dit, je vous laissais parler, je vous laissais vous exprimer.
Pardon, excusez-moi.
C'est l'écho dans la montagne.
Et en fait, plus on est, plus les gens sont isolés, plus les conditions de vie sont difficiles. C'est toujours pareil dans des circonstances comme ça, avec l'altitude, avec le froid, avec la terre qui est quand même assez ingrate. Hein. C'est des pays.
Ah, c'est... On le sait un peu, mais on le sait d'autant mieux en lisant votre roman.
Oui, voilà. À part les poireaux et les choux, par exemple, il n'y a pas grand-chose qui arrive à sortir à des altitudes pareilles et dans des conditions pareilles. La terre est très pauvre, en fait. Donc, c'est vraiment une, une terre très ingrate. Donc c'est beaucoup de travail, c'est des conditions de vie très très rudes. Et quand on est assez nombreux et qu'on peut s'organiser et qu'on peut faire les choses ensemble, ça va. Mais quand on se retrouve dans un village avec deux ou trois familles paysannes ou trois ou quatre et qu'on n'est plus que 30, ça devient vraiment le rocher de Sisyphe. On peut pas, en fait, on n'y arrive pas, quoi.
Mais quelque part, vous dites que c'est inhospitalier pour les femmes et les enfants. J'ai parlé de la petite fille, donc Esther amène Juliette, sa fille, qui n'est pas, elle non plus, complètement dans les codes et dans les clous sociaux. Et elle va quand même s'épanouir quelque part. Elle va comprendre, elle va appréhender et ils vont se familiariser. Le paysage et la petite vont s'apporter beaucoup de choses l'une l'autre.
Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un des paradoxes, c'est que quand même les milieux urbains sont extrêmement normés, répressifs, très très durs avec les enfants qui sont d'une autre diversité, on va dire, qui sont un peu divers, un peu différents. Ça m'énerve de dire différents, je préfère dire divers en fait. Mais c'est vrai qu'elle est très différente des autres quand même. Et c'est vrai qu'en ville, ça posait problème. Hein. On parle un peu d'hôpital de jour, de choses comme ça. C'est vrai que sur un coin comme la Marguerite, ça ne pose absolument aucun problème à personne. Les humains sont très différents les uns des autres. Ils ont tous leurs capacités. Et elle, toutes les compétences qu'elle peut avoir, la petite Juliette, sont tout à fait appropriées pour le milieu dans lequel elle se trouve, en fait. Elle est curieuse, elle est très exploratrice, elle est aventureuse, elle a peur de rien. Elle n'est pas facilement impressionnable, donc elle est très résistante. Bon, voilà, elle sent pas le froid, elle est très très résistante physiquement. Et donc là, elle est parfaitement adaptée. Et la solitude la dérange évidemment pas du tout, bien au contraire.
Alors, on parlait de la rudesse du climat, de la dureté, de l'âpreté de la vie là-bas. Mais dans ce livre, il y a des pages absolument magnifiques. C'est aussi, je parlais de cris d'amour, c'est des paysages somptueux, c'est magnifique quand on n'a pas à cultiver les poireaux et les choux.
Oui, mais même pour ceux qui cultivent des poireaux et des choux, hein, c'est ce que je disais de Lucien. Tous les gens qui vivent là, moi j'ai entendu des gens très âgés me parler de leur plateau avec un amour, parce que même dans des conditions de vie aussi terribles, la beauté les écrase complètement. Enfin, ils aiment ça, ils trouvent ça magnifique, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas partir aussi.
Alors, on parlerait de Sous la neige, nos pas pendant très longtemps, mais il faut que vous avez publié deux livres, il faut qu'on passe autant de temps à parler du deuxième, Écoute les cloches. Alors là, le ton est très différent. Moi, si je veux résumer le ton et un petit peu, je dis que c'est une fable très corrosive, pétrie d'humour vache et rageur, très rageur. Et là aussi, il y a deux mondes qui vont se rencontrer au départ dans un parking souterrain autour d'une Rolls-Royce. Alors, quels sont ces deux mondes? D'un côté, il y a Écoute les cloches, faut pas croire, c'est pas ceux des églises.
Oh ben non.
Donc, les cloches, la cloche, les clochards.
Voilà, voilà. Et en fait, les deux mondes qui se rencontrent dès le départ, c'est le monde des services secrets, en fait, des barbouzes.
Des barbouzes, carrément.
Voilà. Et celui de la cloche, effectivement. En fait, c'est une fable, effectivement, c'est quelque chose d'assez burlesque et d'assez féroce. Je me suis dit que les services secrets, les barbouzes dont on sait qu'ils sont, on pense savoir qu'ils sont intervenus parfois dans des émeutes urbaines pour attiser un peu le feu à certaines époques, etc., qu'ils le font de toute façon un petit peu partout ailleurs. Et j'avais suivi vraiment la guerre intra-service entre les anciens et les modernes, après la guerre.
Entre les anciens et les anciens aussi. Ils sont très anciens quand même. Hein.
Oui, c'est ancien, mais bon, voilà, c'était une guerre où finalement les interamouais avaient été récupérés en partie pour Kabila, en partie je me rappelle plus des dictateurs de l'époque que certains voulaient garder et d'autres pas, enfin bon, bref. Et je me suis dit, il pourrait y avoir un complot, effectivement,
c'est très plausible.
De barbouzes. pour retarder les élections de façon à changer, etc. Bon, enfin, c'est très classique. Mais il pourrait y avoir aussi une guerre, là aussi, entre les anciens et les modernes. Ils pourraient ne pas être d'accord. Et voilà, et ils pourraient provoquer des émeutes dans les ZEP, dans les ZUP, enfin, dans les quartiers, voilà, déshérités de Paris. Je me contentais de Paris, là, pour le moment, qui provoquerait effectivement des interventions policières, etc., etc.
Et qui provoquerait, par exemple, l'instauration d'un état d'urgence, quoi.
Par exemple, par voilà. Exemple. Non, mais la réalité me rattrape complètement. Elle me dépasse. C'est même énervant, quoi. Ça va trop vite.
À croire que tout le monde lit vos livres, j'espère, d'ailleurs.
Ouais, ouais, non. Et tout le monde ferait bien d'y mettre un peu plus de style, d'ailleurs, parce que là, vraiment...
Non, mais effectivement, des façons d'instaurer la peur et de monter le sentiment d'insécurité, en France, c'est quand même... Voilà, on sait que ça se fait, ça se fera, ça s'est fait.
Et effectivement, bon, on sait que maintenant, l'armée se prépare à des tâches de... Enfin, et d'ailleurs, tout à fait formée maintenant, depuis 2010, à des tâches de maintien de l'ordre, que par ailleurs... la police est armée, et comme l'armée, et qu'elle utilise des techniques de guerre urbaine, on a vu ça à Lyon, on a vu ça dans d'autres endroits. Bon, tout ça se mélange un peu et finit par avoir, si on y réfléchit, une très sale gueule. Et voilà, c'est un peu ça aussi que je voulais mettre en scène. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ces émeutes qui initient, eh ben, leur échappe un peu, à vrai dire. Et ça part effectivement des clodos.
Voilà, alors il y a deux personnages hautement improbables. Vous parlez de sale gueule, mais la façon dont vous décrivez au début Bois Pourri et la salpêtrière, c'est hautement grinçant et comique.
Oui, c'est mon couple d'amoureux.
Ah ouais, ils sont beaux.
Il n'y en a pas qu'un, remarque. Oui.
Ils sont très beaux. Et donc, ben, ça va être un petit grain de sable qui va quand même miner tout ce complot.
Oui, oui.
Et puis, c'est en gros, pauvres de tous les endroits, exclus de tous les endroits, unissez-vous pour aussi fiche la pagaille.
Oui, voilà. Alors, en fait, au début, il s'agit des clodos. Et puis, bon, ça parle un peu de cette manie de faire des lieux d'enfermement de plus en plus. Voilà, là, j'ai inventé des MC qui sont censés récupérer les clodos pour les sauver de leur affreux destin et les mettre, évidemment, au boulot. Parce que quand même, voilà. Et puis, les désintoxiquer et tout ça. Et ça part de là, en fait. Les cloches sont pas du tout d'accord. On peut le comprendre. Et en fait, voilà, elle commence à se révolter, à provoquer des petits sabotages. Et puis finalement, des cloches, ça va aller vers
au
les
sans-papiers,
puis vers les putains, puis vers les ceux qui s'intitulent même les cartes électrons, parce que voilà, du nom de la carte qu'on leur donne parce qu'ils n'ont pas de pognon, en gros, les chômeurs, les précaires, etc. Et puis finalement, les punks à chiens s'y mettent, etc., etc. Et puis ça finit par faire quand même pas mal de monde, parce que voilà, et ça crée une espèce de coordination voilà, du trimard sous toutes ses formes.
Et on va peut-être retrouver des barricades dans Paris.
Voilà. Hein, nostalgia. Alors,
je vais lire un extrait que j'aime beaucoup et je crois qu'il résume cette cohorte de la misère dont vous parlez. Ces membres portent le nom de misère. Chaque convulsion de la cupidité grouillant au premier enrôle des bataillons de crève-la-faim dans notre armée fantôme. Nous sommes une immense famille d'orphelins. Nous voulons la peau des pères et des mères. Nous voulons éclabousser le ciel de cette merde aveuglante qu'est l'or. Nous haïssons la richesse qui nous a fait pauvres quand nous n'étions que des humains, des animaux infirmes, des dieux aux dents de lait. Nous voulons tout détruire. Nous voulons un champ de ruines où aucune chaîne ne pourra s'arrimer à quelque chose de solide. Oui, ce réseau est partout. Il grandit. Il a de plus en plus les moyens du nombre. Nous sommes légion. Et nous n'avons que notre faim au ventre. Vous êtes fait un grand plaisir, là.
Ah oui.
Ça fait du bien de lire ça.
De temps en temps, je me lâche un peu.
Et ça fait du bien.
Oui.
Et pour autant, derrière l'humour, derrière ce côté ravageur, il y a une infinie tendresse pour tous ces personnages, et en particulier tous ceux qu'on va rencontrer sous les ponts de Paris.
Oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est plus qu'une tendresse, c'est une réelle estime. Hein. C'est ce que je dis au début du bouquin, c'est des héros, parce que c'est facile. De... Enfin, je veux dire, on a toujours tendance à dénigrer énormément les gens qui sont pauvres, en fait. Tout simplement, on pense que qu'ils sont un peu
crétins, qu'ils ne
sont pas tout à fait finis, qu'ils sont... etc. Parce que la valeur suprême, c'est une forme de réussite sociale, c'est basé sur l'argent, c'est basé sur ces choses-là. Or, il faut beaucoup plus d'ingéniosité. C'est le discours d'une de Rameau, hein, pour simplement survivre au jour le jour, il faut beaucoup plus de génie humain pour se débrouiller comme ça qu'il en faut pour simplement aller bosser, enfin voilà, un travail qui est déjà complètement verrouillé. Faut pas d'inventivité pour ça, pas forcément. Alors que pour survivre, il en faut tout le temps, quoi.
Et il y a beaucoup de gens qui survivent en ce moment partout.
Ouais.
Ce sera le mot de la fin parce que malheureusement notre émission arrive à son terme. Donc Laurence, merci beaucoup.
Et merci beaucoup Corinne.
Et puis on va rappeler dans la deuxième partie d'émission les titres de ces deux romans que j'ai beaucoup aimés. Donc Écoute les cloches et Sous la neige nos pas. Merci Laurence, au revoir.
Merci, au revoir.